Bonjour à tous, ici Gaëtan Pitaval, passionné de trail. Je vais vous partager des histoires de trail à travers ce podcast, des histoires d'hommes, de femmes, des aventures, des émotions, mais aussi des histoires de courses mythiques. Bienvenue à tous.
If you want to go 100 miles, it's going to be tough, it's going to be difficult.
Ouais, les stars sont en place et moi j'ai le cœur qui va à 400.
But if you remind yourselves to love yourselves and to love others, you're going to have great success out there. Because if you believe in yourself, if you love yourself, you're going to do all the right things that you're going to need to do to be successful today, to get to the finish.
Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Trail Story. Aujourd'hui, nous partons dans l'Ouest américain pour vivre une épopée magique avec Eric Queneau, finisher de la Western State. Donc je vous propose de découvrir le parcours exceptionnel de Eric et vous allez voir, vous allez vibrer avec lui dans cette traversée mythique. Alors la Western State, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une course qui se déroule aux États-Unis, plus précisément dans la Sierra Nevada en Californie. Et c'est un ultra trail qui fait 102 miles, donc soit environ 162 km. Et ce trail a un dénivelé de 6000 mètres de dénivelé positif. Donc je ne vais pas trop en dire plus sur cette course. Je vais laisser la parole à Eric. Eric, est-ce que tu pourrais te présenter en quelques mots, nous dire d'où tu viens et quelle est ton expérience dans le domaine du trail ?
Bonjour à tous, donc je m'appelle Eric. En fait, moi je suis un passionné de sport avant tout, donc j'aime bien tous les sports et toute ma vie j'ai toujours grandi dans le sport et aimé faire du sport à partir du moment où je m'amusais, je transpirais et que je passais des bons moments. Donc pas forcément dans un esprit de compétition, mais je suis venu au trail assez tardivement, même si la course à pied finalement c'est plutôt une discipline instinctive, hein, et j'y suis venu progressivement avec l'envie de mettre un dossard. Puis le bitume finalement, c'était pas mon truc. J'ai aussi grandi dans un environnement de montagne, donc l'envie d'évasion et de découvrir des paysages m'a amené naturellement au trail. Donc ça, c'était plutôt en 2008. Et progressivement, c'est devenu une opportunité pour moi aussi de découvrir de nouveaux paysages, de vivre de nouvelles aventures, de vivre autrement le sport. Et de me lancer des défis. Donc, au début, j'ai commencé par des courses dans ma région en faisant plus particulièrement le Trail de Sainte-Victoire. C'est une des seules courses que j'ai fait plusieurs fois, mais j'ai rapidement eu envie de faire jamais deux fois la même course. C'était un peu ma philosophie. Et que finalement, le trail devienne aussi une excuse ou un alibi au voyage. Donc, d'aller parcourir un petit peu le monde, on va dire, à travers le trail. Et finalement, mon premier trail de Sainte-Victoire, qui était mon premier défi, c'était 50 km. Ça paraissait énorme déjà à l'époque pour moi de faire ça. Et puis finalement, j'ai enchaîné avec une participation au championnat du monde la même année qui était à Serre Chevalier. Donc c'était dans la région. Puis rapidement, le premier UTMB, finalement, j'ai participé en 2010 sur une édition qui était perturbée par la météo. Puis l'année d'après, c'était la TDS, Tour du Beaufortin, Diagonale des Fous en 2013, rapidement. En 2012, il y avait encore un UTMB qui était perturbé, donc il y avait cet objectif-là aussi à finir, que j'ai pu réaliser complètement dans de bonnes conditions en 2014. Et puis au niveau des pays, puisqu'on en parlait, c'était aux Canaries avec la Trans-Gran Canaria, la Trans-Vulcania plus récemment. Donc l'idée c'était un peu de voyager un peu partout, le Mute aussi, enfin pas mal de courses de d'ultra trail world tour aussi qui étaient entre guillemets à cocher, mais en tout cas à chaque fois la motivation c'était de se déplacer, d'associer ça avec des vacances aussi et puis de découvrir un nouveau paysage.
En 2018, tu décides de faire la Western State, hein, donc cette fameuse course américaine emblématique. Tu peux nous expliquer un peu comment on fait pour s'inscrire à ce type de course ? Est-ce que c'est compliqué ? Et est-ce qu'il y a beaucoup de Français qui participent à cette course cette année-là au moins ?
Alors, je n'ai pas décidé en 2018, puisque c'était déjà programmé dans ma tête, on va dire. Et ma première inscription date de 2017. Et effectivement, c'est pas simple parce que c'est une très vieille course, c'est une course mythique, emblématique qui date de 1974. Et il y a environ un peu moins de 400 participants, sachant que il y a une centaine de dossards qui sont réservés à des élites, à des partenaires, etc. Donc en gros, il reste un peu moins de 300 dossards. Il y a à peu près 15 000 tickets. Un ticket, c'est un nombre de tickets qui sont mis dans le chapeau pour le tirage au sort. Il y a à peu près 5 000 personnes physiques qui postulent. En gros, quand on n'a pas été pris première année, on dispose de 2 tickets l'année suivante, etc. Jusqu'à, il y a des personnes qui postulaient qui avaient 32 tickets dans le chapeau, par exemple. Donc, d'accord. Moi, la première année, j'avais un ticket dans le chapeau, j'ai pas été pris. Et donc, l'année où j'ai été sélectionné, j'avais 2 tickets dans le chapeau. Donc, en gros, 2 chances sur 15 000 d'être tiré au sort. J'étais pas dans la première liste et j'étais sur liste d'attente. Et comme l'année d'avant, ils étaient remontés jusqu'au 39e, j'étais plutôt confiant sur ma participation. Le tirage au sort se fait en live, hein, il n'y a aucun trucage. On voit ça sur Facebook et puis d'un coup, on entend son nom. Ça, c'était un moment assez fort. On entend son nom tiré au sort devant la salle, parce qu'il y a un public qui est présent. Et c'était assez fun.
Second year person from another city in France, and I'll mess up, Chateau Le Martique, Eric Quinault.
Effectivement, il y a très peu de Français qui participent. Là, sur l'année 2018, on était 8 Français, dont 2 élites qui étaient Eric Favry et François Dalle. Finalement, des gens lambda comme moi, on devait être 2 ou 3 Français seulement.
Alors, Eric, te voilà inscrit pour cette fameuse Western States. Donc là, tu arrives aux États-Unis. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton arrivée sur place? Quelle est l'ambiance? Et est-ce que tu es accompagné?
Alors, j'arrive aux États-Unis une semaine globalement avant la course. Je suis accompagné de mes parents. Donc, mes parents qui m'ont suivi et finalement depuis mes débuts en trail, dès mes premières courses, ils ont toujours été présents. C'est des passionnés de montagne, passionnés de sport. Donc, forcément, dès que je m'implique dans ce type d'événement, ils suivent, ils sont toujours partants. Donc, sur toutes les grandes courses auxquelles j'ai participé, ils étaient là. Et donc, ils m'ont accompagné sur ce défi-là. Donc là, on est parti tous les trois. On est arrivé une semaine avant. Et on a passé, d'abord, trois, quatre jours tranquilles sur San Francisco avant de partir sur Squaw Valley, qui est le lieu de départ de la course, qui est à peu près à 4 heures de route de San Francisco. Et puis, les premiers jours, effectivement, sur place, découvrir un petit peu le parcours, se mettre dans la tête les endroits où on va passer avec des petites randos tous les trois, tranquilles. On avait un rendez-vous qui nous avait été donné par l'organisateur de la course. C'est ça qui est un peu particulier aussi dans l'ambiance de la course, c'est que le mercredi avant le départ, on était tous invités à un barbecue géant sur Auburn, donc au lieu d'arriver de la course, dans l'esprit américain, avec le guitariste qui est là, les grandes tables, le barbecue, et vraiment pour nous accueillir, puisqu'il y a beaucoup d'étrangers aussi sur cette course-là, nous accueillir, passer un moment ensemble. Donc ça regroupe les coureurs qui ont répondu à l'invitation, mais aussi les légendes de la course. Donc il y a Gordy Hanselegg, qui est le premier vainqueur de la course en 1974, était là. Il y avait Tim Twitmeyer, qui est aussi une des légendes de la course, qui a gagné plusieurs fois. Anne Trasson, chez les femmes, qui a gagné plus de 14 fois. Il y avait plusieurs légendes de la course qui étaient là, et puis des bénévoles qui sont là et qu'on va retrouver sur le parcours, qui viennent nous voir, qui nous demandent un peu d'où on vient. Donc c'était vraiment une super ambiance. Et puis l'organisateur aussi, qui vient accueillir tout le monde. Donc voilà. Puis ce moment-là, c'était finalement un peu un moment clé aussi de la course, quand j'y repense. Sur Western States, on a droit à un pacer. C'est pas quelque chose qui m'était coutumier, qu'on avait l'habitude de faire ou d'entendre parler sur les courses en France ou en Europe. Et puis c'était un peu tout ce qui revenait. Alors c'est un peu une anecdote parce que c'est un peu tout ce qui revenait dans le fil des conversations. C'était « Ah bah tiens, est-ce que t'as un pacer ? Est-ce que t'as un pacer ? tout le temps comme ça. Je dis, bah non, moi, j'ai pas de pacer. Et finalement, bah voilà, Bob Croyer, organisateur, me dit, est-ce que tu veux un pacer? Et finalement, à force de, que tout le monde me demande si j'ai un pacer, je dis, bah oui, pourquoi pas. Voilà, ça peut pas faire partie de l'expérience de découvrir quelque chose de nouveau. C'est aussi des choses que j'aime bien. Et il dit, parce que j'ai encore des personnes qui attendent que des coureurs fassent appel à eux pour être leur pacer. Donc, il m'a mis en relation avec une personne.
D'accord. Donc, un pacer, pour les auditeurs, c'est quelqu'un qui t'accompagne sur le début, toute la course, une partie.
Alors, exactement. Un pacer, en fait, alors, c'est pas un meneur d'allure dans le sens où on l'entend en road running sur un marathon. Il n'est pas là pour nous donner une allure de course. Mais en trail, on a plutôt un esprit de... C'est un compagnon de course. Donc, il est là pour courir avec nous. Il connaît le parcours, il connaît la course. Voilà, pour nous accompagner moralement, suivre notre allure. Il n'a pas le droit de nous porter le matériel. Il n'a pas le droit de ce genre d'aide. Mais il est là pour courir avec nous, qu'on soit pas seul. Et puis, nous rassurer, nous donner les bons mots. Mais le pacer, il a le droit de nous rejoindre à partir du 100e kilomètre. Donc, il fallait déjà aller jusque-là. Et puis, à partir du 100e kilomètre, il peut finir la course avec nous.
Qu'est-ce que tu peux nous parler un peu de Sco Valley? Ça ressemble à quoi? Est-ce que c'est aride? Quel type de paysage on a? Et comment est la nature un peu dans cette région?
Alors, particularité de la course, c'est qu'on part de Sco Valley, qui est une station de ski, qui a été fondée pour les Jeux Olympiques qui ont lieu en 1960. Donc, station olympique, plutôt station un peu américaine, des petits bâtiments, mais vraiment tout seul sur une petite vallée. Et puis, tout de suite, ça part dans les montagnes. Donc, sur Sco Valley, on est quand même assez haut. Et on est sur des grandes forêts. C'est du gigantisme à l'américaine parce que c'est des arbres, on a l'impression qu'ils font 50 mètres de haut, c'est complètement démesuré.
Alors, globalement, te voilà arrivé le jour J, donc juste avant le départ. Toi, dans ta tête, qu'est-ce qui se passe juste avant de t'élancer et ce matin-là, quand tu te lèves et que tu te dis je vais commencer la Western, aujourd'hui c'est la Western et j'y suis quoi. Dans quel état d'esprit tu es? Comment ça se passe?
Rien que t'en repars, tu vois, ça me donne des frissons déjà. Mais c'est vrai que je suis un peu sur une autre planète, sur une autre galaxie. La veille à la remise des dossards et le matin on se lève. C'est un peu la même sensation que sur toutes les grandes courses hein, quand on s'élance pour plus de 160 km. Il y a toujours une part d'incertitude. On ne sait pas comment son corps va réagir. On ne sait pas on ne sait pas ce qui va se passer. On n'est jamais sûr d'aller au bout. Et voilà, c'est un peu un mélange entre d'excitation et de l'appréhension. Donc l'excitation parce que voilà, on est au départ d'une course mythique avec des grands coureurs et puis où on a la chance d'être là avec très peu de Français, très peu de participants. Donc on mesure cette chance-là. Mais voilà, donc c'est un peu cette sensation-là qu'on a au départ de chaque grande course, ce petit mélange d'excitation et d'appréhension.
Et alors, ce matin-là, quelle est la météo sur place?
Alors, ce matin-là, la météo est très bonne. On part à 5 heures du matin. Et les conditions sont bonnes. Le ciel est dégagé. En tout cas, voilà, il n'y a pas de pluie. J'aurais pas de pluie tout au long de la course. Au contraire, j'aurais droit à la chaleur, au temps dégagé. Mais au départ, il fait pas froid. Pas besoin de se couvrir avec plein de couches, même si on est en altitude. Après, il y a un petit décompte au départ. Il y a aussi une ambiance qui est particulière. Les gens on n'a pas besoin d'arriver, il n'y a pas beaucoup de coureurs, il n'y a pas besoin d'arriver 2 heures avant pour se placer. Les gens sont avant, récupèrent leur dossard, les gens discutent, rigolent. Et puis il y a un mot d'organisateur qui est très fort, qui parle de la course, des sensations, pourquoi on est là, le rapport aux gens qui nous encouragent, aux bénévoles. Ce mot-là, il est assez fort et assez unique.
Open your heart today when you're out there running. And I know all of you, you know that you're here for a reason. You're here for the reason to run 100 miles, but you've brought friends and family with you. So at some point today, promise me, when you're out there, think about the people that you love and how they've helped you. And if you can, even if there's a moment where you're kind of tired, maybe a little down in the dumps, smile and think about them. Think about how much you love them and how grateful you are that you're out here today.
Alors, t'as pleuré ou pas, Eric ?
Pleuré, j'ai toujours un moment d'émotion, effectivement, qui est assez fort. J'essaie de fermer les yeux, un peu de me concentrer pour me recentrer sur l'objectif.
Alors, le speaker, à ce moment-là, il fait le décompte.
Ouais, les stars sont en place et moi, j'ai le cœur qui bat à 400.
Ouh ! 6, 5, 4, 3, 2, 1. Have a great day, everybody! Oh, oh.
Et là, ouais. C'est parti, la course commence. Alors, est-ce que tu peux nous parler de cette course, de l'ambiance sur le parcours, les paysages, la météo, et toi, comment tu te sens pendant cette course ? Qu'est-ce qui se passe ?
Le départ, il est tout en montée, hein. Effectivement, 700 mètres de dénivelé, comme je disais tout à l'heure. Ce qui est sympa, voilà, c'est que déjà, dès le début, je retrouve des gens que j'ai rencontrés avant. Donc, il y a un Argentin que j'avais vu à la remise au dépôt des sacs que je retrouve dans la montée, avec qui on discute un peu. Au sommet, il y a un ami des gens chez qui on logeait, avec qui on avait mangé quelques jours auparavant, qui m'avait dit je t'attendrai au premier sommet, j'y suis chaque année avec mon chien et tout ça. Donc voilà, déjà je croise du monde, donc c'est quelque chose aussi que j'aime bien dans les courses, retrouver des gens qu'on connaît sur le parcours. Donc la première ascension, j'apprends cool, hein, puisque ça monte d'entrée, donc pas se cramer quand même, il y a quand même quelques kilomètres à gérer. Et puis dès qu'on bascule de l'autre côté, ça change de rythme, parce que c'est là qu'il faut commencer à courir. On l'a pas dit encore, mais c'est bien effectivement 100 miles avec 6 minutes de dénivelé, mais à effectuer en moins de 30 heures pour ramener la boucle. Donc ouais. Ça veut dire qu'il faut quand même courir. Il faut pas traîner, il faut beaucoup courir, et ça je le savais. Donc dès les premières descentes, sans mettre la machine non plus en danger, il faut commencer à aller plus vite. C'est des grandes forêts, des singles assez roulants mais qui zigzaguent. Et puis on se retrouve dans ces grandes forêts très roulantes. Et finalement, ça devait être quasiment au 30-35e kilomètre, je crois. Je commence à avoir des crampes, comme jamais j'ai eu. Mais j'ai jamais eu des crampes comme ça. C'est-à-dire que ça m'a immobilisé tout le bas du corps. C'est-à-dire que ça partait des adducteurs, aux mollets, aux cuisses. Enfin, c'était dans tous les sens. Et là, j'étais un peu dégoûté, parce que je me dis, merde, 30e kilomètre, j'ai des crampes comme ça, c'est des parties où je peux courir et je peux pas courir. Donc, je sais que chrono tourne malgré tout, même si je m'anime pas sur le chrono, mais pour rester dans les 30 heures, il faut quand même faire gaffe. Et puis, j'avais quand même déjà de l'avance, hein, sur les barrières horaires. Disons que ce qui est sympa, c'est que sur chaque ravito, on a effectivement la distance à laquelle on est. Et puis aussi la barrière horaire à laquelle on devrait passer pour être en moins de 24 heures ou en moins de 30 heures. Donc jusque là j'avais à peu près 2h30 d'avance, donc c'était bien. Et puis je recroise aussi un Français à ce moment-là, enfin un Français me rattrape que j'avais rencontré avant, puis il me dit mais c'est bon, t'inquiète pas, on est dans les temps et tout ça. Et puis j'arrive pas à le suivre, j'arrive pas à courir, je suis obligé de marcher. Voilà, et puis progressivement ça revient malgré tout. Et puis je fais mais bon, premier coup dur déjà. Et puis rapidement, on se retrouve aussi dans la chaleur, donc il faut commencer à boire, à bien boire, bien s'hydrater. Et puis sur un des ravitaux, je mets aussi de la des glaçons dans la poche à eau pour pouvoir bien me refroidir, pour bien me refroidir le corps. Donc c'était plutôt agréable parce que j'avais vraiment cette sensation de froid dans le dos, donc ça me permet de refroidir. Les bœufs, on met des glaçons dans les bœufs, c'est quelque chose pareil, j'ai jamais vu. Ils ont une technique pour te mettre des glaçons dans ton tour de cou, le rouler et tu mets ça autour de ta tête, autour de ton cou pour bien refroidir le corps. Et l'eau forcément qui est dans la poche à eau, elle fond. Et puis à un moment donné, tu même si tu as des flasques pour boire, et tu fais la bêtise de boire l'eau de ta poche à eau, ce qui est plutôt agréable parce qu'elle est très fraîche. Par contre, les glaçons, tu sais pas d'où ils viennent. Et ça a été fatal parce que quelques kilomètres plus tard, premier vomissement. Donc je pense que c'est lié à ça. Hein, après analyse de la course, c'est sûrement lié à ça. Plus possible de boire, plus possible de manger. Et là, pendant environ 40 kilomètres, c'est l'enfer. Je dois être à peu près au 40e, je pense. C'est un peu après les crampes. 40e, 50e, ouais. C'est très dur, ouais. Parce que là, je commence à attaquer les canyons. Il fait super chaud, il fait plus de 40 degrés. Ça monte, ça descend dans tous les sens. Et puis, impossible de manger. Donc, il n'y a rien qui passe, quoi. Il n'y a rien qui passe. Et puis, j'arrive, donc je perds du temps, forcément. Il fait très chaud, j'essaye de me mettre dans une rivière. Bon, là, il y a une rivière dans une montée dans le canyon. Je me trempe dedans pour me rafraîchir. Mais vraiment rien qui passe jusqu'au ravitaillement avant où mon pacer doit me retrouver. Donc mon pacer, il peut me retrouver à Forest Hill en fait. Mais on avait convenu qu'il viendrait me voir au ravitaillement juste avant, qui s'appelle Michigan Bluff, où j'arrive un petit peu avant la tombée de la nuit. Mon objectif, c'était plutôt de retrouver mon pacer avant la tombée de la nuit. Donc là, j'ai en gros 10 km de retard. Je commence à frôler la barrière horaire, par contre, parce que là, ça commence à chauffer. Quand j'arrive à Michigan Bluff, je suis à une demi-heure de la barrière horaire. Et là, je suis encore complètement sec. Je retrouve mes parents, donc, et mon pacer. Et là, je m'assois sur une chaise de camping. Et puis, ça devient compliqué dans la tête, effectivement. Donc, entre tes parents qui, tu vois, ont de la compassion pour toi, ont pas envie que tu te fasses mal, tu vois, dans un sale état. Et puis, le pacer qui est venu pour toi, qui a fait des bornes pour toi, qui a envie de finir la course avec toi et qui trouvait le bon mot en disant, t'inquiète pas, moi, il m'est arrivé la même chose. Ça va revenir et puis on se relève quand même et on se dit on fait un ravito de plus et puis de toute façon on verra bien et peut-être que voilà dans sa tête on se dit si je dois sortir de la course c'est pas moi qui vais me sortir, ça sera la barrière horaire parce que mon corps n'aura pas été au niveau mais c'est pas moi qui vais sortir de la course quoi qu'il en soit. Donc je repars dans la nuit et puis je commence à remanger un petit peu. Et je repars plutôt en marchant, trottinant un petit peu, mais voilà, tranquille pour faire les 10 prochains kilomètres. J'essaye de suivre un groupe parce que ça y est, fait nuit. Et puis j'arrive jusqu'au ravitaillement suivant où là je retrouve mon pacer et où il peut m'accompagner enfin.
Take a left to the white bridge.
Yeah.
Donc là, je lui dis, laisse-moi juste 5 minutes. Je commençais à avoir envie de dormir parce que on avait dû faire un peu plus de 16 heures de course, 16-17 heures de course, je pense. Donc je commence à avoir envie de dormir. Donc je lui dis, laisse-moi juste 5 minutes. Donc je me pose contre l'arbre, juste le temps de fermer les paupières, de repartir. Et là, il dit, maintenant, il faut qu'on y aille. Donc on repart. Mais cette petite sieste a été aussi salvatrice parce que si je me connais, je sais que des fois des petites siestes comme ça, mais vraiment très courtes, ça peut être juste des fois deux minutes, hein, juste le fait de relâcher son corps, de fermer ses paupières et de revenir à soi, ça peut suffire. Il n'y a pas besoin de dormir 2 heures. Donc ce temps de relâchement m'a fait beaucoup de bien. Je suis reparti avec lui. On a commencé à trottiner dans la nuit. J'avais un super éclairage et puis moi j'ai commencé à retrouver des jambes aussi, à remanger, à reboire un petit peu. Donc, du coup, forcément, à réalimenter mon corps, à lui redonner un peu de gasoil pour continuer la course. Et puis, c'était aussi l'anecdote de la course. C'est progressivement, moi, mon PCR avait tendance un peu à marcher parfois me sentir dans la difficulté, pas me mettre plus dans la difficulté. Donc, on marchait. Puis, moi, à l'inverse, je courais. Puis, je lui ai dit, Delmar, parce qu'il s'appelait Delmar Fralik. Je lui ai dit, Delmar, je me sens bien, donc je préfère trottiner. Enfin, je n'ose pas dire courir, parce que finalement, je pense que je ne vais pas être un super allure. Mais après 100 km, quand on court à 8-9 km/h, on a quand même l'impression de courir à 15, mais ce n'est pas grave. Donc, je dis, moi, je préfère courir. Et puis, à chaque ravitaillement, ça me permettait de prendre un peu d'avance et puis déjà de me ravitailler un peu en attendant. Et puis, on arrive au moment... à traverser un moment clé de la course, ou un moment un peu phare de la course, qui est la traversée de la rivière. Ça, moi, j'ai fait de nuit, du coup. Donc, c'est une traversée de rivière qui est bien aménagée, puisqu'il y a il y a une longe sur toute la traversée avec des bénévoles tous les mètres. Et puis, on a de l'eau entre le nombril et la poitrine. Et on traverse sur les cailloux cette rivière sur 70 mètres peut-être à peu près. Et juste derrière, on a possibilité de laisser un sac d'allègement. Donc moi, sur ce passage-là, j'avais mis un sac d'allègement complet avec chaussures, shorts, t-shirts pour repartir vraiment sec de la rivière parce que je n'aime pas avoir les pieds mouillés. Et puis avant la traversée, je demande aux bénévoles, je leur dis, est-ce que je dois attendre mon pacer ou est-ce que je peux traverser? Comme ça, je peux déjà commencer à me changer. Ça me fait non, c'est bon, vas-y, on te prévient dès que ton pacer arrive. Donc je traverse, je commence à me changer, je prends le temps de me changer, je me sèche bien les pieds, tout ça, j'attends 5 minutes. Puis la personne qui est à l'autre bout de la rivière, je dis, vous avez des nouvelles de mon pacer? Parce que ça faisait au moins une demi-heure que j'étais arrivé, que j'avais traversé et je ne le vois pas arriver. Et il vient d'appeler Dossard 374, oui. Il vient de nous prévenir. Il arrête sa course, il a des crampes, il n'arrive plus à suivre. Ah, je suis bien, super. C'était pas prévu, quoi. Le pacer, il est censé t'accompagner et te soutenir jusqu'au bout. Et puis, au bout de 30 km, il give up, quoi. Il abandonne. Donc, j'ai dit, c'est pas grave. Allez, c'est reparti. Donc là, je repars. Et puis. Il y a plus de grosse montée, hein. C'est beaucoup du up and down, mais il y a pas mal de portions où on peut courir. Et je me retrouve à courir à des endroits où finalement, même au 30e kilomètre, je ne le faisais pas, quoi. Donc sur des petits faux plats montants, je trottine. Puis j'avance parce que je sais que j'étais juste en barrière horaire, même si je commence à récupérer un peu. Et je sais que j'ai pas droit de freiner, quoi. Je suis si près du but qu'il faut pas relâcher. Donc là, on commence à avoir la motivation de pourquoi on est là. Il faut aller au bout, aller chercher cette boucle qui est tant unique. Voilà, c'est pas une médaille comme on nous donne d'habitude. Là, c'est la boucle de la Western States qu'on va aller chercher à amener chez soi. Et puis aller au bout pour soi, certes, pour accomplir aussi tout ce voyage qu'on a fait. On n'est pas venu de France jusqu'aux États-Unis pour faire une demi-course et pour échouer. Donc il y a ça, et puis la fierté de tous les gens qui te suivent, qui t'entourent, qui ont envie de te voir aller au bout. Donc on n'a pas le droit d'arrêter. Donc ça te pousse à rattraper ce temps perdu, à continuer à courir. Et aller au bout, et on arrive au petit matin, et le jour se lève.
Le matin, quand le jour se lève, là, est-ce que c'est beau?
On est parti à plus de 2000 mètres d'altitude, à peu près, ou 1008 peut-être. Ouais, ça doit être 1008 ce qu'on va aller. Et là, on se retrouve à 300 mètres, donc c'est toujours très chaud. Et puis, je retrouve des endroits où je suis passé aussi au repérage. Donc, j'aime bien avoir ces points de repère, comme je disais tout à l'heure, c'est que. Là, voilà, j'arrive à des endroits où je suis déjà passé, donc ça donne confiance aussi. Le dernier pont, alors on arrive à à un pont qui s'appelle No Ends Bridge, parce que c'est, à la base, c'était un pont, il n'y avait pas de barrière. Depuis, ils ont mis des barrières pour pas que les gens se cassent la gueule, je pense. Mais à la base, on finit par ce pont-là avant de la dernière remontée qui nous amène à Auburn.
We'll take a left to the White Bridge.
Yeah.
Donc là, j'arrive à ce pont-là. Mes parents sont là, mais ils ont failli me rater parce que je vois ma mère qui est là. Je l'appelle, elle m'avait pas vu. Donc voilà, on se croise in extremis ici. Et puis là, pareil, bah, on remet des glaçons dans le bœuf. Et puis voilà, on sait qu'on est bon parce qu'on est sur la dernière montée. Il reste quelques kilomètres. Et puis on a récupéré du temps. Donc là, c'est l'émotion totale. On se dit qu'on a réussi, quoi.
Et donc là, l'arrivée approche. Tu gères les émotions, là, parce que c'est l'aboutissement.
Ouais, l'arrivée approche. Et puis il y a mon pacer qui est là. Ouais. Donc le pacer est là. Et puis. Bah ouais, finalement, il t'a pas abandonné, quoi. Donc il arrive, et puis bon, après, on traverse la ville. C'est pas une ville, c'est un village, en fait, mais t'as tous les gens qui sont sortis de leur maison, qui t'acclament, et puis tu finis par un dernier tour de piste que t'as vu des fois dans des vidéos ou autre. C'est énorme, quoi.
Moi, je vous propose de vivre l'arrivée de la Western. Allez, un petit tour de piste pour finir. Putain, c'était dur, hein. 2 heures d'avance sur... la barrière horaire, des crampes qui m'ont freiné. Ensuite, impossible de manger et de boire pendant 35 bornes ou moins, voire 40. Donc là, ça freine max. Hein. Et après, tu sais pas ce qui se passe. Il y a tout qui revient et tu fais 60 bornes à bloc. Et... t'arrives avec une heure d'avance, au lieu d'être avec une heure de retard. Putain, c'est bon, je vous dis ça. Bon, dès que je rentre dans la piste, voilà, je voulais partager l'arrivée avec vous. I'm sharing the finish line with my friend. Putain. Fou, c'est Eric. Alors on y est là. Bon, on va rentrer tranquille. Break what?
What's the time?
Yeah, we can.
It's up to you.
Allez, on va faire moins de 29 heures. Putain que c'est bon. Allez, on va passer l'arche ensemble. Yes, I'm friends, it's me.
2013 finisher of the Grand Prix of the Union.
Ben, je vous dis, celle-là, elle est unique.
Also Spanish UTMB. Where to know from Châteauneuf-les-Marquis in France.
Allez, je vous mets l'arche. Je vais kiffer. Allez, on va breaker le time.
Thank you.
Congratulations.
Great job. We thought for a second you're going to turn around and go back to squaw there.
Good job, Eric.
Good job.
Congratulations.
Thank you.
There you go. Congratulations. Well done, great job.
Tu fais ton petit live et là tu profites, le plaisir est là. Et
ouais, je fais mon petit tour de piste. Je fais mon dernier tour de piste et puis c'est vrai que ouais, je profite juste à voir parce qu'il y a du monde autour de la piste et qui est acclame, tes parents qui courent aussi derrière. Alors c'est marrant parce que tu cours quand même plus vite qu'eux alors que tu viens de te faire 160 km quand même, mais tu sens plus la douleur depuis plusieurs dizaines de kilomètres. Quand tu t'arrêtes, quand tu t'assois, tu profites et on te donne ta médaille. Et puis on a une remise officielle, ça c'est pareil, c'est unique. Hein, on ne donne pas ta médaille en disant allez, enlève-toi de là et ça arrive derrière. Remise officielle, c'est la cérémonie officielle de clôture avec une remise individuelle de ta boucle. Donc par ordre d'arrivée, donc d'abord il y a le podium des élites, les 10 premiers hommes, les 10 premières femmes, et puis ensuite on est appelé un par un. Donc un par un, l'organisateur, le directeur de la course nous félicite et nous remet la boucle en main propre et la boucle qui est même gravée à ton nom. Gravée à ton nom, donc ils ont le temps dans l'heure et demie entre ton arrivée et la cérémonie de clôture de graver ton nom sur la boucle. Donc ça c'est génial aussi, faut pas la perdre, ça va. Et voilà, donc ce qui fait que cette course elle reste mythique par ses origines, mais aussi je trouve unique par rapport à toutes les courses que j'ai vécues. Ça reste unique au niveau de l'ambiance, quoi.
Incroyable. Bon, merci beaucoup Eric.
Voilà, cet épisode de Trail Story est maintenant terminé. J'espère qu'il vous a plu et que vous avez vibré dans cette épopée magique de Eric Gueno à travers... Nous terminons cet épisode avec une chanson classique américaine, Born in the USA de Bruce Springsteen. À bientôt et bonne aventure trail à tous.